Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire, même à la fin du mois de juillet, avec les vessies et les lanternes de la critique. J'ai nommé Olivia de Lamberterie, Duel, Jean-Claude Raspienjas de La Croix, Michel Crépu de La Nouvelle Revue Française et Jean-Louis Hésine. De partout, le Pays d'Auge, Ponto Combo, il est de partout. Pour parler ce soir de Vessies et lanternes d'Alain Chanier, mais également des gros romans à succès de Jean-Paul, de Didier Laurent et Franz-Olivier Gisbert, de la vie sexuelle des écrivains, que Jean-Louis m'a demandé d'inscrire ce soir, et de Je veux croire au soleil, le témoignage de Jacques Sémélin aux éditions des Arènes. Voilà, dans le courrier de la semaine, plein de merci, dont ceux de Catherine Bardet. Merci au punk de la critique, comme vous a appelé Jérôme Garcin, pour votre unanimité autour du livre de Patti Smith. Votre enthousiasme m'a poussé à l'acheter dès le lendemain. Invitation à un voyage esthétique, sentimental et mystique dont je suis sorti bouleversé et enrichi. Merci, cher Masque. En revanche, comme la plupart des critiques du Masque, la jeune épouse d'Alessandro Baricco a déçu beaucoup nos auditeurs, dont Louisa Consoli. Mr. Gwynne était une composition empreinte d'une finesse et d'une musicalité grisante qu'on ne retrouve pas dans La Jeune Épouse. Est-ce la simple caprice de l'auteur ou bien les choix du nouveau traducteur? Justement, est-ce Alessandro Baricco? Est-ce la traduction? Se demande Gabrielle Le. Toujours est-il qu'elle a lu La Jeune Épouse et qu'elle a pleuré avec, je cite, « les fenêtres étouffées par des volets en bois laqué ». Je n'arrive pas, ajoute Gabrielle, à me... ouvrez les guillemets, reformé en tant que famille pour confluer dans la grande salle à manger, puis foin de salut à me rendre au sommeil. Un peu étrange. Je n'arrive pas non plus, dit Gabriel, à me lancer dans un joyeux concert de bienvenue, veiné de surprise, ni à étudier pendant les longues soirées d'hiver harcelées de brouillard et parfaitement souillées de merde. J'arrête et je m'en tiendrai cette fois à la lecture du texte, mais en italien. Dans le même roman de Baricco, Marie-Odile Sauvageon a relevé deux œgmas. Elle partit pour l'Argentine avec une valise légère et le cœur lourd, banal. Enfin, il est sorti de la pièce et de ce livre. Donc quelques piqûres de œgmas pour les prochains Aoussiens. On a Patrick Laurent de Chartres qui a repéré dans Charles Draper de Xavier de Moulins, c'est chez Lattès. Il prend doucement goût à l'effort et de l'aspirine pour soigner ses courbatures. Nicolas Nizorg a relevé page 12, ils sont très précis nos auditeurs, des oreilles sur le dos de Georges Arnaud, qui est l'auteur du salaire de la peur. Tous trois échangèrent d'abord des regards méfiants, puis des cigarettes américaines, enfin des remarques exprimées en yiddish. Catherine Lenoble, dans Jupe et pantalon, premier roman très frais, paraît-il, de Julie Moulin chez Alma. Elle se dirige lentement vers l'évier, vide le fond de sa tasse et ce qui lui restait d'estime de soi. Pour finir, c'est Rémi Dejuste de Paris qui a trouvé un zeugma gravé dans le marbre du tombeau de Jacques-Germain Soufflot au Panthéon, un de tes amis, je crois. Ici est le corps de Messire Soufflot, architecte de Sa Majesté et de la nouvelle église Sainte-Geneviève. Cet envoi est aussi un prétexte pour remercier France Inter et lui dire mon attachement ancien, fidèle, affectueux, indéfectible et exclusif au Masque et la Plume. Merci Rémi Dejuste. Et on commence avec évidemment un énorme succès, après avoir fait déjà un carton avec son premier roman, Le Liseur, du 6h27, qui avait été sérieusement égratigné au Masque et la Plume. Jean-Paul Didier Laurent récidive, du moins dans le succès, avec Le Reste de leur vie, et c'est au Diable Vauvert, un roman intergénérationnel selon son éditeur qui fait se rencontrer Manel, qui est une aide à domicile, qui réconforte les vivants, enfin les vieux vivants, et Ambroise, qui est un thanatopracteur chargé, tu le sais Jean-Louis, de rendre les morts présentables avant la mise en bière. On verra donc nos deux tourtereaux et la grand-mère d'Ambroise embarquée dans un corbillard Mercedes, s'il vous plaît, avec un malade incurable, qui plus est rescapé d'un camp de la mort. Destination la Suisse. Je ne vais pas vous raconter la suite. Faut-il en faire une lecture pour l'été, Jean-Claude ?
Moi, j'ai une histoire à raconter juste avant. J'avais égaré le livre quand il était arrivé.
Il n'est pas gros, hein ?
Oui, j'avais égaré. Et donc, j'ai appelé, on a appelé l'attaché de presse pour savoir si on pouvait en avoir un. C'est pas, voilà. Et elle a dit, mais je ne comprends pas, j'en ai envoyé trois au journal. Et elle a dit, mais en plus, j'ai vraiment pas envie de vous en renvoyer un, parce qu'à chaque fois qu'on parle du diable Vauvert au masque, on se fait étrier, donc on n'a pas très envie. Ils l'ont quand même envoyé, mais ils ont eu tort. Parce que voilà, il y avait une excellente idée, cette histoire de thanatopracteur. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu fais quand tu es thanatopracteur et les relations sociales que tu as, voire amoureuses, quand en effet, il s'agit d'avouer,
tu passes tes journées. C'est pas une bonne idée, Jean-Claude.
C'est une bonne idée. Voilà. Après, tu en fais ce que. Voilà. Mais alors, le problème, c'est que. C'était une bonne idée. Non, le problème, c'est que c'est totalement fadasse, quoi. C'est un style sans relief. Il y a des phrases tout à fait surprenantes. Alors, pour le coup, enfin, c'est un peu embêtant parce que sur le quatrième de couverture, les éditeurs, le Diable Vauvert, dit tout lecteur fermera heureux, ému et réparé ce deuxième roman qui confirme le talent de Jean-Paul Didier Laurent.
Didier Laurent, il a
quatre prénoms.
Donc c'est déjà ce qu'il disait pour le liseur hein, du 6h27.
Alors, en tout cas, réparer. Alors moi, ce que je voudrais lancer un appel aux auditeurs. On est le 31 juillet, profitez-en, oui. C'est l'été, ils vont bientôt rentrer. Essayez de nous épargner ce genre de salmigondi qui ne répare pas les accidents d'un texte. Jamais. Oui. Donc, s'il vous plaît, évitez-nous ça. Parce que déjà, avec ce genre de formule, c'est déjà décourageant. Et on est déjà méritant d'ouvrir un livre dont le quatrième de couverture est censé nous proposer de lire un livre dont on sortira réparé. Voilà. Mais je ne tiens pas à être réparé.
Olivia.
Moi, j'avais perdu le livre aussi, donc j'ai aussi appelé le Diable Vauvert, mais moi, ils me l'ont donné sans problème.
Ils ont dû quand même vous traiter de pervers. Hein.
Non, mais je tiens à dire que Julien Blangras, qui est publié au Diable Vauvert, a été lancé et encensé.
Par le masque et la
plume.
Et d'autres
donc,
aussi. Et d'autres
on, aussi. On, bon, là, évidemment qu'on débine, parce que ce livre est épouvantablement
mauvais.
Il marche
les feux de Dieu. Hein.
Non, mais alors là, pour moi, c'est un mystère. Honnêtement.
Le liseur, c'était pareil. Hein, ça,
oh, mais moi, je regrette le liseur, hein, parce que le liseur, c'était mieux que ça, qui est un livre sympa, voyez. On voit que le projet de Jean-Paul Didier Laurent, c'est d'être sympa. Donc, il y a ce monsieur qui s'occupe des morts, mais c'est quand même très sympa, en fait, de faire ce métier. C'est pas du tout sympa à lire, parce qu'il y a une page où il explique que ce métier, il faut jamais en parler, qu'il faut que ça reste dans la corporation. Donc, on se dit, ouf, je vais échapper à la réparation justement du mort. Pas du tout, vous avez des chapitres dégoûtants,
hein.
On vide les urines, ouais. On injecte des trucs, je vous raconte pas parce que c'est dégoûtant.
On casse la raideur cadavérique.
Donc, mais tout ça c'est quand même très sympa.
Oui,
y a une autre fille qui a un métier très sympa, c'est qu'elle s'occupe des personnes âgées, donc elle vide les pots de chambre, c'est très sympa. On se demande quand est-ce qu'ils vont se rencontrer.
Elle les prépare pour lui, quoi, en gros.
Voilà. Et donc je trouve que c'est fondé déjà sur une sorte de vision du monde tronquée et de super que de dire être vieux et avoir très très mal partout, c'est très sympa, être mort, c'est encore plus sympa. Donc voilà, mais j'ai quand même continué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces deux trucs très sympas? Et alors là, ça devient carrément dégoûtant.
Ah, le voyage en Suisse, tu veux dire?
Bon, parce que alors là, tout d'un coup, il s'empare d'un sujet de société, le suicide assisté, tout ça. Et moi, je vous dis, relisez Emmanuel Bernheim,
et puis revoyez les films qui ont été faits.
Et là, ça devient proprement dégoûtant parce que là, l'auxiliaire de vie très sympa. Alors là, elle est contre le suicide assisté. Pourquoi? Parce que un jour, elle a avorté et donc elle a déjà signé un pacte avec la mort et ça suffit, les pactes avec la mort. Et là, on tombe sur des phrases comme ça. L'embryon criait en elle. Alors là, excusez-moi, mais je trouve ça réac et très moche. Donc je trouve qu'en plus, dans ce livre, il y a une espèce de morale réactionnaire. La vie, c'est super, la vie, c'est très sympa, rien ne vaut la vie.
Oui, mais apparemment, c'est ce que les gens veulent, puisque c'est cette...
Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il y a une scène de sexe sentiments. Ridicule. Et alors, elle dit, il est écrit, elle lui arracha son boxeur. Alors là, moi, je ne sais pas. Visuellement, j'essaie d'imaginer une fille.
En revanche, c'est...
Soit elle a une force de taureau. Non, comment tu veux arracher un boxeur?
Olivia, exerce-toi.
J'y vais. Au mois d'août, je vais arracher des boxeurs. Ouais. Non, c'est vraiment très, très nul et très déplaisant.
Jean-Louis.
Je vais y aller de ma petite anecdote aussi. Moi, au moment où j'ai reçu ce livre, on sortait à peine de... Vous savez, parce que bon, les programmes du masque sont constitués avec beaucoup d'avance. Hein. On sortait à peine de l'épisode...
Non, je t'envoie ça un mois à l'avance.
On sortait à peine de l'épisode Inondation. tu te souviens des inondations terribles qu'on a eues?
Oui. C'est longtemps, c'était
terrifiant. Il y avait un jour, c'était de la pluie, le lendemain, c'était la grêle.
Du temps du déluge.
Oui, du déluge, vraiment. Après, c'était la neige. Enfin, on a tout eu, inondation.
Enfin, t'en fais trop là. Non, il n'y a pas eu de neige au moment des inondations.
c'est pratiquement pas grave. Si, au petit matin dans le pays d'Auge, ici. Oui. Mais
c'était frais le matin.
Ça me faisait penser, et je reçois ce livre. Et j'étais en train de penser au mot de Pierre Dac qui disait « À part ça, qu'est-ce que vous voulez qui tombe ?» Alors effectivement, c'est rare, mais c'est arrivé. C'est arrivé sous la forme de ce livre-là.
Tu l'as reçu, tu veux dire, au moment des tragédies que nous avons connues.
Des tragédies aquatiques.
Mais c'est un peu dur.
Qu'est-ce que vous voulez qui tombe ? Eh bien, c'est arrivé, c'est tombé. Et c'en est. C'en est. C'est-à-dire, les récits à base d'humour scatologique...
Et un peu morbide, quand même.
Très morbide, à base de vases à vider dès la première page. Enfin, c'est assez horrible dans l'humeur où on était à ce moment-là. Franchement, alors on me dit que l'auteur sort de Sciences Po, mais je pense que c'est peut-être Sciences Po avec un T.
Ça, tu sais.
Ça doit être ça, j'imagine. C'est peut-être ça, j'en sais rien. Mais... Je rejoins tout à fait ce que dit Olivia sur ce côté sympa. C'est tout à fait dans l'école Arlequin. C'est le livre médicament.
Ah non,
Arlequin,
non,
c'est
non.
La Pléiade.
Tu n'as pas.
Enfin, je ne voudrais pas faire de la pub.
Arlequin, c'est la Pléiade, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. C'est ces livres qui t'enseignent que, au fond, être un humain quand t'es vraiment dans la merde. Enfin, c'est vachement sympa quand même.
Et puis c'est dur. C'est dur à faire. Sauf que quelqu'un comme, pour le coup, comme Anna Gavalda, le fait bien ça.
Ah, ça montre qu'il faut avoir un talent fou pour montrer de l'empathie pour des gens. Exactement. Je suis d'accord.
Jean-Louis,
j'ai pas de moralité à cela, sauf peut-être la chanson où vous vous souvenez de la chanson des Joyeux Vidangeurs.
Tu sais, on n'était pas tous nés. Hein.
Tous ceux qui nous emmerdent, on les foutra
déjà
dedans.
Qu'on est dans la merde.
Non, mais c'est horrible. C'est absolument.
Mais ce que tu dis là est assez horrible aussi, quand même.
Parler
de vidange,
ce roman-là,
c'est une émission de critique, quand même.
Horrible. Non, mais attends, je veux dire, il y a quand même de la décence. Dans le genre bon sentiment.
Ah oui, ça c'est...
On ne peut pas faire pire, ni mieux.
Allez, Michel.
Alors, je dois dire que comme mes collègues, comme vous...
Tu l'as demandé deux fois.
J'ai téléphoné. Non mais c'est vrai, je vous dis la vérité.
C'est un gag, je vous jure
que c'est vrai. J'appelle au diable Vauvert, qui est au diable d'ailleurs, il faut le savoir. Et là, j'ai pas reçu le livre et je tombe sur une fille qui me fait répéter trois fois l'émission pour laquelle je travaille. J'étais légèrement agacé, mais bon, tout en restant humble, il faut toujours rester humble, c'est clair.
Oui.
Et elle me dit, attendez, ne quittez pas. Alors, je ne quitte pas. Et elle revient cinq minutes plus tard, elle me dit, il faut que vous appeliez l'agence machin, je sais pas quoi, Renault...
Anne Arnaud, des gens charmants.
C'est eux qui font le service des livres. Ah bon, alors j'ai laissé tomber et je suis allé acheter le livre parce que je ne savais pas.
Ah, c'est toi ?
Ah, tu l'as acheté ?
Oui, je l'ai acheté. Je ne sais pas ce que c'est que le cougar. J'achète les livres de
La Cougar.
La Cougar. Donc je suis vraiment très mal parti.
Ça a bien servi à rien.
Et alors j'ai quand
pourtant,
même.
Pourtant, c'est un roman
j'ai
comme
quand même lu le livre et là c'est absolument terrifiant. Ce livre.
Oui.
C'est la littérature pâquerette.
Pâquerette.
Moi, je disais Arlequin.
Oui, mais c'est effectivement tout ce que le sympa. Il y a Alain Chiffre avec écrit un livre délicieux.
Au dilettante, qui est merveilleux.
C'est drôle. Tellement vrai.
Et là, c'est vraiment répugnant. C'est ce que Kundera a très bien décrit quand il s'occupait du kitsch et qu'il parlait du kitsch. Le kitsch, c'est la petite pâquerette destinée à faire pleurer, à faire dire « oui, la vie est merveilleuse » et tout. Et en même temps, c'est épouvantable. C'est l'horreur. Ça n'a aucune capacité de saisie de l'existence. C'est épouvantable.
Voilà tout ce qui reste du reste de leur vie. Au diable Vauvert, si vous voulez le demander au service de presse, vous n'hésitez pas.
Je m'en occupe.
Tentez votre chance.
Après la part du masque et la plume.
Oui, essayez de l'avoir comme ça.
Et c'est signé, retenez bien son nom, Jean-Paul Didier Laurent. Donc là, c'est pas l'arracheuse de boxeur, mais l'arracheuse de dents. Et c'est le nouveau roman chez Gallimard de Franz-Olivier Gisbert. Et c'est Alors là, je vais avoir du mal à le résumer. L'histoire totalement folle, comme d'ailleurs Gisbert les aime, de Lucille Bradsock, qui est une Normande, Jean-Louis,
qui commet... Avec ce nom-là, ça m'étonnerait.
qui commet son premier crime à Caen. c'est chez nous, tu vois, qui débarque à Paris en 1789, qui apprend le métier chez le dentiste Hippolyte Frochon, qui va soigner les caries de Robespierre, mais aussi celle du dauphin,
qui a vraiment existé,
qui prend part à la guerre de Vendée, mais elle existe, Madame Bradsock, qui se déguise en homme pour embarquer sur un navire négrier, qui va s'amouracher d'un esclave qu'elle fait évader, qui après j'avance, hein, sinon je pourrais dire qu'elle se penche sur les dents de Washington, elle épouse la cause des Indiens d'Amérique, elle va même coucher à l'île d'Elbe avec Napoléon. Ah, il paraît que son haleine sentait l'ail, l'amande et la confiture de rose. Ouais. Je sais pas où Gisbert va chercher ces informations.
Il y a des témoignages.
Non, j'ai noté, hein. L'haleine de Napoléon sentait l'ail, l'amande et la confiture de rose. C'est un peu paradoxal,
oui.
D'ailleurs.
Oui,
c'est...
oui.
Bref, à 99 ans, on est là en 1876, Madame Lucille Bradsock commence à écrire ses mémoires. C'est donc celle que Gisbert appelle une Monte Cristo en jupon. Ça vous a plu, tiens, Jean-Louis, le Normand?
Oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça me fait penser à
un... Tu l'as lu? C'est un gros livre.
Oui, bien sûr. Mais j'ai eu le temps depuis l'inondation.
Il y a une table des matières en même temps.
Oui, oui, c'est très...
C'est commode.
Ça donne un peu d'ordre.
Peut-être pas aller jusqu'à là, mais c'est à la fin du livre.
Oui, ça a donné. Oui, ce qui est très utile.
Confirme.
Oui, je confirme. Ça m'a fait. Il y a Benoît de Groot qui vient de disparaître. Disait, il n'y a qu'un moyen d'être féministe aujourd'hui, c'est de laisser parler les femmes. Eh bien, c'est ce que fait Gisbert ici, à travers cette héroïne qui n'a pas existé, qui est imaginaire, mais qui a fait mieux qu'exister.
C'est sûr qu'elle n'a pas existé.
Non, oui. Avec ce nom-là, j'ai reconnu Gisbert, rien qu'à ce nom, Bradsock. Parce que dans Bradsock, j'entends nettement Radsock. Et Radsock, ça veut dire radical socialiste. Oui, c'est la spécialité de Gisbert. Non, mais je veux dire, c'est la spécialité politique. De Franz Olivier Gisbert, les radicaux sociaux. Bah oui, non, mais je suis sûr que ça lui est venu comme ça.
Je trouve que Jean-Louis est assez bon. Là.
Mais oui. Ah, et oui,
merci,
il a raison.
Maître. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'elle est, même si elle est imaginaire, ce personnage, elle est prodigieusement vivante. Et je me dis, voilà un romancier qui est dans l'empathie pour son héroïne, pour ses personnages en général, et ça, j'adore, parce que j'ai mesuré à la lecture de ce roman que ça devient rare. Au fond, les écrivains s'emmerdent aujourd'hui terriblement. Et
lui, il s'emmerde pas.
Ils ont beaucoup de dépit vis-à-vis des personnages que le monde actuel leur inspire très souvent. Ouais. La génération Houellebecq et toute la.
Ah non, c'est pas le genre. Non.
Ben voilà, c'est pas le genre.
Olivia.
Mais là, oui, c'est tout ce que tu veux. Oh, mais c'est une brutalité.
Non, mais Jean-Louis, quand tu commences dans les généralités,
oui.
il est bien de t'interrompre, tu vois.
Ah bon ?
Parce que là, tu es en train de nous faire un cours de littérature générale.
Non, puis en plus, Gisbert retrouve ses attaches, je vais dire, franco-américaines, hein, tu sais. Oui. Et là, il est vraiment dans la filiation Julien Green, c'est-à-dire vraiment dans les attaches, la culture.
C'est bon, tu as
oui,
des
oui.
Très bien, Olivia.
Je peux t'en dire bien davantage.
À chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est très très bien. Et c'est très bien parce que l'héroïne, Lucille Bradsock, donc, oui. N'est pas du tout sympa.
Non.
Je vous ferai remarquer que c'est dès la première page, il y a un gars qui la bouscule en sortant du café, elle le tue.
Elle le tue.
Elle est comme ça, Lucille.
Elle
a la gâchette très facile.
Ouais, mais attends, mais il faut bien qu'elle se défende
aussi. Tout en le traitant de pauvre homme, ce pauvre homme. Paf,
oui, paf. Avant, il
mais ça, quand ça arrive souvent
Il lui a juste dit vieux fou. J'aime bien que tu la défendes, cette meurtrière.
Attends, à cette époque-là, elle a raison d'avoir du caractère quand même.
Très bien, très bien. Bon, la prochaine fois qu'on me bouscule, je sortirai mon flingue. Écoute, je trouve que c'est complètement débridé, échevelé, improbable. Parce que,
j'aime bien le mot improbable.
Tu lis le début, donc elle dégomme ce malheureux. Et après, on voit qu'elle a 99 ans. Bon, puis après, on change de chapitre.
Oui, parce qu'elle commence en racontant ses souvenirs.
On découvre qu'à ce moment-là, elle a toujours une sorte d'échoppe où elle est à la fois dentiste, vétérinaire, coiffeuse. Bon. Mais comme il y a un homme qui la recherche, elle va s'engager dans l'armée comme éclaireuse. Donc là, j'ai retourné quelques pages en avant pour vérifier que j'avais bien lu et que donc elle avait bien 99 ans. Eh bien oui, elle avait bien 99 ans. Alors, tout est comme ça, mais je trouve que c'est très, très enthousiasmant. C'est très amusant. Moi, j'aurais adoré arracher des dents plus que des boxeurs.
Ah oui.
Et là, il raconte des trucs sur les dents à la Révolution, absolument génial. Il y a, par exemple, envie d'arracher des dents. Par exemple, Danton, à un moment, a une dent cariée.
Oui.
Et là, on apprend un truc. C'est que, déjà, à l'époque, ils avaient inventé les implants. Parce que Danton, qui est peut-être révolutionnaire, mais qui ne veut pas avoir un trou dans sa dentition, demande qu'on arrache la dent de son valet pour lui mettre à la place.
Oui. Alors bon. Je vois pas ce qu'il y a de choquant dedans. Hein, dans tout ça.
C'est vrai que c'est très révolutionnaire comme propos.
On a beaucoup perdu avec le temps.
Très amusant. Moi, je trouve que Gisbert, il est jamais aussi bon que quand il parle de femmes. Je suis d'accord avec Jean-Louis. Oui. Ses personnages féminins sont toujours très très bien. Oui, et puis surtout, ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est de lui qui parle tout le temps.
Oui, oui.
Merci la vie, c'est lui. Une femme qui dit ni viande ni mélancolie, qui aime beaucoup beaucoup l'amour et la chosette, comme il l'appelle. Et mine de rien, c'est une sorte d'autoportrait complètement fou.
Ce qu'on trouvait déjà dans le portrait du roman précédent de la cuisinière
D'Himmler. Mais c'est encore plus frappant, je trouve, avec celui-là. Et je trouve qu'il est meilleur, ce livre, et qu'il est formidable.
Jean-Claude.
Bah écoute, c'est une très bonne surprise. Moi, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas. Je suis rentré là-dedans.
On peut même dire que quand je t'ai envoyé mon programme, tu as fait un peu la fine gueule.
Voilà. Donc, je suis en train de dire au micro, je ne m'y attendais pas. C'est une très bonne surprise. Ça caracole, ça cravache, c'est à peine panache. En effet, elle est pas du tout aimable. Elle se défend comme elle. C'est délicieusement invraisemblable. Tu disais que c'était improbable. Moi, je trouve ça délicieusement invraisemblable et ça marche tout le temps.
En même
temps,
très précis, hein, historiquement.
Ah oui. Alors c'est ça. Alors de temps en temps, ça sent la doc quand même. Ça sent la doc venant parfois peut-être de Sciences Po, mais en tout cas, il fait vivre tout ça. Il mélange tout, littérature populaire, livres d'histoire, galeries de personnages illustres. Enfin, c'est un livre de chair et d'odeur. Parce que tu as commencé avec la laine de Napoléon, mais il y a plein d'odeurs dans ce livre, plein. C'est évidemment que c'est un autoportrait.
Pas tout très agréable.
Non, ça c'est sûr. C'est vraiment un autoportrait. Il y a un éloge du végétarisme évidemment. On y coupe pas. Naturellement, Robespierre a l'éthique de Sarkozy. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'éthique qu'il décrit de Robespierre, c'est ceux de Sarkozy. Il a des licences érotiques assez amusantes. Voilà. On coupe pas non plus au registre de Gisbert, qui sont des proverbes sortis dans de ses doux. Alors dans ses précédents livres, notamment ses biographies politique. Ces proverbes étaient bantous, béninois, enfin on savait jamais d'où ça venait, c'est évidemment lui qui les a inventés.
Il a fait d'ailleurs un jour un recueil de proverbes et d'aphorismes.
Voilà, alors on n'y coupe pas, on y a droit encore, et ça marche très bien. Non, c'est une vraie bonne surprise. Et alors ce qui est rigolo avec Ratzok, là, c'est que elle adore vivre comme une bobonne. C'est-à-dire qu'elle, dès qu'elle a un mari, elle adore être dans le confort bourgeois, tranquille, tricoter, ranger son pistolet. Avec ses trois maris, les meilleurs moments, c'est quand elle est comme une bobonne et qu'elle bouge plus et qu'elle est bien là.
Mon petit Michel.
Moi, j'ai trouvé ça assez bruyant comme livre. J'ai eu l'impression d'une fanfare de 14 juillet, tu sais, qui joue à fond, mais faux. Tu vois, c'est l'impression que m'a donné ce livre qui est bourré jusqu'à la gueule de documentation, alors une documentation impeccable, avec des petits larcins, des petits détournements. J'ai vu que une tournure, un des meilleurs passages des mémoires de guerre du général de Gaulle est récupéré dans le livre. C'est à la page 123 pour les amateurs.
Sérieux?
Oui, bien sûr. Mais c'est pour dire que la documentation est vraiment hors de pair. Mais moi, ça m'ennuyait. Franchement, j'ai trouvé ça. Pour moi, Gisbert, c'est presque un écrivain, mais c'est pas un écrivain. C'est pour ça d'ailleurs que c'est bruyant. Ce livre est bruyant parce qu'il n'arrive pas à faire de la musique avec tout son truc.
L'arracheuse de dents, c'est Franz Olivier Gisbert et c'est chez Gallimard. La vie sexuelle des écrivains aux éditions Nouveau Monde. Donc un livre d'Imane Bassala, qui est docteur en lettres modernes, un patchwork, écrit-elle dans sa préface, composé d'une ronde d'auteurs que les siècles éloignent, mais que l'interrogation charnelle rapproche. Alors elle cite dans sa préface quelques contemporains, pas beaucoup, hein. Il y a Houellebecq, Angot bien sûr, Beck BD, Florian Zeller. Le livre est surtout consacré aux galipettes des grands classiques. Alors, Madame de Lafayette, La Fontaine, l'ogre Hugo, à qui Juliette Drouet disait « Vous êtes une bête ». George Sand, entre Chopin bien sûr et Musset, Colette, à voile et à vapeur, Proust, attiré par les grands gaillards, ça je ne savais pas, je l'ai appris dans ce livre. Simenon, qui se vantait d'avoir eu 10 000 femmes, dont 8 000 professionnels. Et Duras, toujours inimitable, qui disait « J'adore faire l'amour ». Ça vous a intéressé, ce livre, mes enfants? Tiens, Michel.
Je dois dire que les livres qui traitent de ce thème me paraissent toujours assez vains. Enfin, la relation...
Il n'y en a pas tant que ça, si.
Il y en a sur la vie sexuelle des écrivains.
C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça.
Ah oui, donc ça change déjà ton préambule.
Mais il y a beaucoup de considérations dans les essais, dans les trucs qu'on parle toujours.
Ouais, c'est
les biographies,
c'est
tout
très
ça.
D'époque. Oui.
Et en fait, je ne trouve pas que le traitement de cette question débouche sur un résultat très satisfaisant. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de rapport, en définitive, entre le génie littéraire, qui est quand même ce qui nous intéresse en premier, et puis la vie, ce qu'on appelle la vie sexuelle, sur laquelle il faudrait s'expliquer aussi, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la vie sexuelle. J'aimerais qu'on m'explique un peu. Hein, j'aimerais.
La vie sexuelle du cougar.
Oh, ça va avec le cougar. comment dire, c'est très bien écrit. C'est très très bien écrit. J'ai beaucoup aimé le chapitre sur Madame de Lafayette qui m'a appris une chose délicieuse. C'est qu'à l'époque de Madame de Lafayette, on ne disait pas un amour, on disait une amour.
Ah oui.
Et ça, c'est très joli. Oui.
Ça change
pour
tout.
Le coup, c'est délicieux ça.
Tu sais qu'en 2016, le représentant de la NRF disait le cougar.
Ah oui.
Donc tu t'es ennuyé? Non, Michel, sérieusement, tu t'es un peu ennuyé?
Je me suis pas vraiment ennuyé parce que le livre est très bien écrit et donc j'ai pris un certain plaisir stylistique, disons, à lire le livre. Mais ça m'intéresse.
Mais tu n'as pas appris grand chose.
Non, j'ai rien appris. Je regrette qu'elle oublie Solers, d'ailleurs, parce que sur la question.
Mais parce qu'elle parle pas des contemporains, encore une fois.
Ils sont tous morts.
À part la préface.
Enfin, bon, c'est pas. Oui,
à part la préface, c'est que des auteurs classiques.
Oui, il y en a 8.
Jean-Louis.
Ben, je savais qu'un jour, on n'y couperait pas.
Au masque?
Oui, non. Que ce type de livre. Moi, je me rappelle quand on avait débuté dans ce métier, on s'intéressait les maisons des écrivains.
Mm-hmm. Oui.
Sur les pas des écrivains.
Une heure avec.
Les petites manies des grands écrivains, enfin des choses comme ça.
Les mères des écrivains.
Les mères d'écrivains.
Les
pères des écrivains.
La première fois.
Donc on était menacés par le cul des écrivains. Et ça n'a pas manqué. Cela dit, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre parce que je m'étais dit, c'est l'époque qui veut ça, c'est moderne et tout. Et en fait, c'est le livre le moins moderne que j'ai lu cette année. Tout est très, très vieux. En fait.
Mais ça tient aux auteurs qu'elle a choisis.
Parce qu'il y a quand même très longtemps que les fesses de La Fontaine ne se sont plus trémoussées dans les couloirs du château de Vaux-le-Vicomte.
Oui, mais ça tient, le côté vieillot tient aux auteurs qu'elle a choisis, Jean-Louis. C'est pas le propos.
Mais une approche aussi qui est.
Mais la littérature n'a pas d'âge.
Je partage complètement la réticence de notre ami Michel Crépu. À savoir que quand vous prenez. Qu'est-ce que c'est que la sexualité? C'est pour un écrivain, c'est un symptôme parmi d'autres d'un rapport au monde, si on veut. Je veux dire, ce qu'un écrivain engage
dans
son œuvre.
J'aime quand tu fais Heidegger.
Dans
la sexualité.
Dans son Dasein, si tu veux, c'est dans son rapport au monde. C'est un des chapitres. C'est un.
Tout à fait.
Effectivement, c'est symptomatique. Mais quand tu ne prends que ça, tu ne peux rien en déduire. Je veux dire que
comme disait Georges Sand, qui
avait
passé.
Mais vous ne parlez pas du livre du tout, hein.
Ni l'un ni l'autre,
pour l'instant. C'est votre idée de la sexualité des écrivains.
Elle non plus n'a aucune idée de la sexualité des écrivains.
Elle a un chapitre sur Georges Sand. Elle aurait pu citer cette anecdote délicieuse de Georges Sand qui dit à un de ses visiteurs, j'ai eu Mérimée la nuit dernière, c'est pas une affaire. Des choses comme ça qui sont intéressantes parce qu'elles disent.
Ça, c'était très intéressant.
Je te remercie.
Oui, parce que,
non, mais vous ne parlez pas de lui.
Non,
mais vous êtes blasé, en fait.
Sand, qui avait pris ce pseudonyme après avoir quitté son amant, qui s'appelait Sando.
Jules.
Oui, c'est ça. Et qui,
on dirait un nom de
donc,
coureur.
Elle ne nous apprend rien de cette femme qui, en réalité, s'appelait Dudevant. Et je veux dire que... Oui,
la baronne. La baronne Dudevant.
Absolument. Et c'est de ce point de vue qu'elle aurait dû la considérer parce que.
Oh, je t'en prie, Jean-Louis.
Non, mais. Je veux dire, il n'y a pas de.
Oui, ça va.
Il n'y a pas d'aboutissant.
Tu vas dire, pas que je t'interromps.
On n'apprend rien, c'est quand même vrai qu'on n'apprend rien.
Écoutons Olivia.
Mais parce que vous savez.
Olivia, tu as appris quelque chose.
Moi, je suis comme vous, je n'aime pas du tout le principe de ce livre. Qui
par
morale
ou
de...
par.
Non, mais c'est une espèce de touille, de ratatouille, de choses prises à droite, à gauche. Piocher un peu à droite, à gauche. Bon, très bien.
Il y en a qui peuvent pas, voilà.
Je suis bonne fille, donc je me suis plongée dans l'objet. Et j'ai été voir Madame de Lafayette. Parce que je ne connaissais pas du tout la vie sexuelle de Madame de Lafayette. Donc je me suis dit, bon,
c'est quelque
pourquoi
chose,
pas, au moins.
Oui.
Bon. Alors, dès la première page, on découvre qu'elle couche avec La Rochefoucauld.
Oui.
Donc là, Le livre a une espèce de côté de la gare des Michards,
oui.
Du voici la gare des Michards, comme ça. Oui. Donc, Madame de Lafayette couchée avec La Rochefoucauld, je me dis, bon, bah, j'ai appris un truc, très bien. Donc, je continue.
Je pense que c'est ce que lui reprochait Sarkozy, ça.
Sans doute, je ne sais pas.
Il devait être jaloux de La Rochefoucauld.
Non, non, là, je reste sérieuse. Oui. Donc, je continue, très bien. Et puis là, je vois des détails sur le maquillage qui m'intéressent. Donc, je vois qu'il y a une note. Donc, je vais aux notes que je n'avais pas, par paresse, je dois le confesser, été consultées jusqu'à présent. Donc, je tombe sur un truc de maquillage qui répond à ma question. Et par hasard, mes yeux se posent sur la note suivante qui est... Il n'existe aucune preuve que Madame de Lafayette ait eu une liaison avec La Rochefoucauld. Voilà. Alors là, excusez-moi, mais les bras m'en tombent et les chaussettes aussi. Qu'est-ce que je
Déception.
Lisais Alors voilà, alors, le problème
boxeur,
de ce livre.
Le boxeur, les chaussettes.
T'es une grande,
ah ben on est en été.
T'es une grande arracheuse.
On
hein.
est en été.
Bah oui, non, mais je reste.
Le problème de ce livre est donc posé. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux?
Mais absolument.
Quand on fait un roman, on fait ce qu'on veut. Hein. L'arracheuse d'un homme, elle peut
coucher. Non, mais la plupart des choses sont vraies.
Mais t'as regardé toutes les notes? T'en es sûr?
Non, j'ai pas lu les notes, j'ai lu le livre.
Écoute, moi, c'est un vrai problème. Alors après, j'ai quand même continué tout le chapitre sur Madame de Lafayette parce que je trouvais que c'est quand même assez intéressant. Et après, il est écrit que la princesse de Clèves a été en partie écrite par La Rochefoucauld. Ce qui est quand même un scoop littéraire.
Oui, c'est...
Sauf comment voulez-vous le croire?
Ah ben voilà.
Il n'y a pas de preuve non plus. Hein.
Donc ça ne te plaît pas?
Non, je trouve ça vraiment pas bien.
Écoute, tu nous as demandé de parler du livre. Alors moi, je vais parler du livre. Je trouve que c'est une drôle d'écriture. Je ne comprends pas que le représentant de la NRF trouve qu'il y a du style. Enfin, c'est une drôle d'écriture. La préciosité se mêle dans les mêmes phrases à la vulgarité la plus éhontée. Le corseté au plus relâché. Et tout ça ne fait pas un style, Michel. Vraiment pas.
Je trouve qu'il y a beaucoup... ce qu'il dit, le représentant de la NRF. Emmerde, connard!
Oui, mais alors.
Ça
alors,
va
alors,
comme ça?
Alors, nous allons juger de la pertinence du représentant de la NRF que nous avons avec nous. Trois phrases, celle-ci. C'est dans le chapitre sur Duras. Maman a parfois vomi. C'est pas Duras, hein. C'est Notre-Dame en question. Maman a parfois vomi, mais elle n'a jamais rendu.
Oh oui.
Cher ami de la NRF, je t'écoute là-dessus. Ensuite, géographie.
Mais c'est sur preuve.
Les perspectives croisées. De la rue Saint-Jacques et de la rue des Écoles, la bécote tendrement.
C'est une figure de style.
Alors, une dernière.
Qu'est-ce que t'es pinailleur?
Pinailleur à la croix. 1910, la grande crue de la Seine se mêle au divorce de Colette et de Willy. Quel rapport?
Ouais.
Quel
mais
rapport?
Jean-Claude, je vais dire
non,
un
mais
truc.
Quel rapport?
Je vais te dire, la NRF
mais
va te répondre.
Va pas nous l'énerver, là.
Mais non, mais on a. Déjà, l'autre jour, je l'ai dit, je voudrais pas avoir à me répéter sans arrêt. Traiter les livres par des citations, ce n'est pas possible.
C'est sur preuve, les amis. Oui. C'est sur preuve. C'est pas gratuit pour le coup. Enfin, on peut dire des choses gratuites de temps en temps. Il faut apporter des preuves.
Non, mais Jean-Claude, tu ne peux pas.
Mais enfin,
ce livre n'est pas. C'est pas la recherche du temps perdu. Ce livre, c'est bien. On est bien d'accord. Je l'ai
c'est
lu.
C'est bourré de citations, mais c'est rempli. Mais non, elle ne sait pas en faire quelque chose de citation. Elle bourre son truc de citation.
Allez, on est fin juillet, soyez.
Il n'est pas de la NRF, il est de NRF, énervé.
La vie sexuelle des écrivains aux éditions Nouveau Monde, et c'est Iman Bassala, Je veux croire au soleil, aux éditions des Arènes.
Enfin.
Le livre d'un homme qui, justement, ne peut plus le voir, le soleil, Jacques Semelin. Qui est prof à Sciences Po, directeur de recherche au CNRS, a perdu la vue passé la trentaine et malgré son handicap, il a continué formidablement, il faut dire, d'enseigner, d'écrire sur les sujets dont il est le spécialiste. Je veux parler des génocides et de la résistance civile aux dictatures. Ce livre est le carnet de route qu'il a tenu lorsqu'il a été invité en 2014 à donner des cours à l'Université de Montréal. Je crois que c'était 2 mois à peu près de cours. Il est parti seul de Paris, sa canne blanche à la main. Et il raconte évidemment toutes les embûches qui attendent dans une ville étrangère qu'il ne connaît pas un non-voyant. Il décrit aussi très bien les instruments de son autonomie. Alors, ça va du logiciel vocal pour naviguer sur la toile, au détecteur de couleurs pour choisir ses vêtements le matin, le portable évidemment Android pour envoyer des textos et des mails, une tablette aux touches bombées pour écouter les livres audio ou encore... évidemment, encore un GPS pour se déplacer dans la ville. Tout cela raconté avec beaucoup de simplicité, d'humour. Et puis, il y a un épilogue merveilleux dans le jardin botanique de Montréal, que je ne vais pas raconter, mais qui est vraiment presque une morale. Et puis, il y a sa devise. Je trouve qu'il le définit très bien. C'est comme je n'y vois pas, je peux regarder les choses en face. Jean-Claude.
C'est un livre absolument magnifique. Il y a 10 ans, il y a presque 10 ans, en 2007, Jacques Semelin avait écrit un livre qui s'appelait J'arrive ou je suis étranger, qui était ses premiers souvenirs,
voilà. Si j'ose dire.
C'est ça.
Publié.
Et là, on a le journal de bord de la façon dont il se qualifie, d'un flâneur intranquille. C'est-à-dire, tu parles de l'humour. Moi, j'ai vu aussi beaucoup, beaucoup de mélancolie. Parce qu'il parle beaucoup de ce naufrage. Il parle beaucoup de sa souffrance à être aveugle. Il parle à un moment
sans qu'il y ait pour autant de plaintes.
Non, il n'y a pas de plainte. Il y a juste.
Et jamais de Jérémiade.
Non, il n'y a pas de Jérémiade. Mais il y a l'expression d'une souffrance qui culmine quand il dit que sa plus grande tristesse, c'est de ne pas avoir vu le regard ni le visage de ses filles. Et je le dis sans jeu de mots, c'est un manuel de résistance. C'est-à-dire que la façon dont Jacques Semelin se débat avec ce réel qui le fuit, est absolument prodigieux. Vraiment, je veux dire. C'est un livre d'une extraordinaire précision. Par exemple, l'Odyssée des sacs poubelles. Comment je descends les sacs poubelles?
Parce qu'en plus. Parce qu'il faut dire qu'il habite à Montréal, voilà, un appartement seul. Oui. Qui a été loué pour lui, mais donc il est vraiment seul.
Et alors, en plus, il a pas de chance, non pas d'habiter à Montréal, mais d'habiter dans les habitations de Montréal, c'est-à-dire que c'est des escaliers vraiment pentus. C'est-à-dire, Montréal a cette particularité, c'est que les habitations ont des... Et pour lui, évidemment, c'est un gouffre, quoi. Il y a des choses qui m'ont beaucoup bouleversé. Par exemple, quand il va avec sa femme au bord du Saint-Laurent, à Montréal, le Saint-Laurent, c'est quelque chose, vraiment. Et lui, il perçoit le Saint-Laurent juste comme un murmure d'eau. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. De la même façon, il ne perçoit pas que Montréal est hérissé de gratte-ciel. Il ne les voit pas, il ne les sent pas. Il a la chance d'être à Montréal, c'est-à-dire que l'attitude bienveillante des Montréalais auprès de lui est magnifiquement traitée. C'est-à-dire que vraiment, les gens sont là et tout ça. Enfin, c'est un livre très, très beau, mais il y a de la mélancolie.
Olivia.
Il y a de la colère dans ce livre, moi, j'ai trouvé aussi. Moi, c'est vraiment la grande découverte de ce soir, c'est ce livre. Je n'avais pas lu le précédent. Et c'est un livre de colère, parce que très souvent, il emploie cette métaphore, il dit que c'est comme s'il vivait dans une grotte. Et il doit sans arrêt essayer de creuser des tunnels pour sortir de sa grotte. Alors, les moyens qu'il a pour sortir de cette grotte sont géniaux, parce que c'est ça, à la fois, sa très grande intelligence, sa très grande mémoire, et son attention à tout. Par exemple, il explique qu'il entend dans une voix si une personne est fatiguée, ou il y a un moment, il est perdu dans le métro, parce qu'il est en colère, mais il est aussi orgueilleux, et il n'aime pas demander de l'aide, et il ne brandit jamais son handicap comme un argument. C'est ça que je trouve beau aussi dans ce livre. Il est dans le métro, il est perdu, et il raconte qu'il arrive à sentir, à l'air, vers quel endroit se trouve la sortie. Il n'hésite jamais en plus à se montrer de manière ridicule, parce que il y a la scène de la machine à laver et de la poubelle, mais il y a la scène de l'éponge, où ce grand historien, il est à quatre pattes chez lui pour chercher l'éponge qu'il a perdue, et ça peut durer une soirée de chercher une éponge. Et en même temps, je trouve que c'est un livre très beau sur comment est-ce que il arrive à dépasser toutes ces petites vexations du quotidien.
Oui, parce qu'il raconte aussi les cours qu'il donne avec ses étudiants.
Voilà, pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les relations humaines, la connaissance, la bienveillance. C'est vraiment un livre absolument somptueux.
Jean-Louis.
Je crois que ce livre offre ce que peut offrir la lecture quand elle est au plus haut niveau, c'est-à-dire partager une expérience inédite, découvrir un monde, parce que c'est un autre monde que celui qu'il nous fait découvrir, nous obliger en quelque sorte à partager son handicap. C'est une pure merveille et c'est une découverte. J'ai été très sensible grâce à une journaliste de France Culture qui s'appelle Aurélie Kiffer, qui a fondé l'association Lire dans le Noir, qui fait beaucoup aussi pour le partage de cette expérience. J'avais été approché par... j'ai ressenti ces choses-là. Mais réussir à les exprimer justement dans un livre, c'est absolument merveilleux. Ça,
Michel.
Bon, je suis absolument d'accord avec tout le monde. Ça m'a fait penser sans arrêt en le lisant à cette phrase de Descartes. Les aveugles sont des gens qui voient avec leurs mains. Et ce livre est la démonstration.
Oui, mais comme disait Olivier, il voit aussi avec sa mémoire, il voit avec son nez. C'est pour ça que je faisais allusion à cet épisode du jardin botanique où il apprend à respirer les fleurs du monde entier et à les définir.
La cécité décuple en réalité le répertoire de sensations. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce livre est d'une justesse totale.
Eh bien, sous le soleil de l'été 2016, on vous conseille tous de lire « Je veux croire au soleil ». C'est aux arènes et c'est signé Jacques Semelin. Et on termine rapidement avec « Vessies et lanternes », le livre d'Alain Chani, un écrivain très parcimonieux, très oublié d'ailleurs, qui est né en 46, qui est mort en 2002 et dont les éditions de l'Olivier ont la bonne idée, selon moi en tout cas, de rééditer en un volume les deux seuls textes qu'il ait écrits. D'abord un roman, « L'ordre de dispersion », et puis un récit, Une sécheresse à Paris. Dans le roman que Chani publia à 26 ans, qui était d'ailleurs à l'époque salué par Derrida, par Le Clésio, par d'autres, un jeune prof est licencié de la philosophie pour avoir, lors d'une distribution des prix, exalté le communisme et craché à la gueule des parents d'élèves. Et puis, après, ben, Alain Chani est vraiment parti. Il a quitté Paris, il est parti vivre dans son Auvergne natale, plus exactement à Ramnac, sur la Margeride, où là, il s'est mis à élever 300 brebis noires du Velay, et il raconte cette vie à la ferme dans ce livre, mais vraiment au quotidien. Il raconte les hivers où l'encre gèle, ce qui lui permet de ne pas avoir à écrire, surtout la fréquentation de mesdames Henken et Carlsberg au bar-tabac. Et puis, il y a un moment que je trouve formidable, qui est la visite que lui rend une journaliste parisienne, qui est venue en bimoteur à hélice et en mocassin ciré. Et puis, il y a cette, là encore, cette morale à la fin, c'est quand Chani écrit « Le but de la littérature n'est pas de faire des livres ». Il l'a vraiment bien prouvé, Jean-Louis.
Tu me réveilles un souvenir, parce que moi, je suis allé lui rendre visite aussi dans ses années 80,
dans
90.
Sa ferme, oui, dans sa ferme, à Ramnac.
Je ne suis pas allé en bimoteur, mais oui, dans sa ferme, oui, donc terre battue, poils ne tirant pas, lunettes réparées avec du scotch, incroyable, quoi. Ouais. Je me demandais comment il vivait, quoi. Je le connaissais par son père, parce que son père
Pierre était Chani,
Pierre Chani, un brillant journaliste de la rubrique cyclisme de l'Équipe. Ouais. Et là, j'ai vu quelqu'un de complètement désemparé. Je lui disais, mais comment vis-tu ? Il me dit, moi, quelquefois, je fais des bons contrats. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec un bon contrat ? Qu'est-ce que tu appelles un bon contrat ? Il me dit, c'est quand ça me permet de remplacer une roue de mon tracteur, un pneu de tracteur.
Mais il est mort sur son tracteur.
Il est mort sur son tracteur, quelque temps de là. C'est un drame total pour moi, parce que il a un talent qui est incroyable.
Deux livres, tu te rends compte, deux livres.
En deux livres, oui. Il y a eu
rien de plus.
Une sécheresse à Paris, et puis l'ordre de dispersion. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de deux livres pour savoir que quelqu'un a du talent. Dès la troisième ligne, ça se voit tout de suite, même la première, enfin bref. C'est un talent incroyable. Il fait partie de ces... J'espère qu'on ne va pas cesser de le republier maintenant. Il fait partie de ces bons petits maîtres français dont les générations se sont peut-être un petit peu perdues.
Il était totalement oublié avant la réédition de ces deux livres.
Oui, Michel, dois dire que je ne le connaissais pas. C'est une découverte pour moi.
Le premier, d'ailleurs, était chez Gallimard, lors de Dispersion.
Je ne le connaissais pas. Oui. Je l'ai découvert en lisant. C'est un talent époustouflant. Si j'osais une comparaison musicale, je dirais c'est Chet Baker. C'est-à-dire à la fois la douceur et en même temps l'âpreté, quelque chose qui est hérissé. Mais les deux... en équilibre parfait. C'est ce que la musique de Chet Baker me transmet.
Avec dessus la laine de mouton, quand même.
Si tu veux. Mais voilà, donc c'est à lire. C'est merveilleux, vraiment.
Olivia.
C'est totalement désenchanté. Oui. Moi, si je devais faire une comparaison, ça m'a fait penser au film de Godard, qui parfois ont un charme fou.
Tu parles du roman, alors.
Oui, du roman.
Oui.
Ça a beaucoup de charme, ça raconte une époque où tout était politique, où se nourrir était politique, faire l'amour était politique, tout était politique. Et puis parfois c'est un peu ennuyeux, parfois on comprend pas très bien, parfois c'est un peu pompier, et parfois il y a des fulgurances
sublimes. C'est jamais pompier, non, ça, là, je suis pas d'accord.
Un poil surécrit parfois, non, mais... je trouve, moi, personnellement. Mais
quand il dit
et en même temps, il y a des choses, moi j'ai adoré.
Mais t'as raison sur une chose, c'est que vraiment dans ce roman, il solde tous les idéaux de 68 de manière violente.
Mais 68 a duré 15 jours et c'est l'espérance de devenir un citoyen et finalement d'être un consommateur. Il y a un truc vraiment d'une tristesse sans fond dans ce livre. Il y a une déambulation avec son fils, ou en tous les cas avec un petit garçon, qui est absolument magnifique au Jardin des Plantes, avec le petit garçon qui demande tout le temps à son père « Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il dit « On est des blaireaux. » Enfin, c'est vraiment très joli. Et il y a un personnage de femme qui s'appelle Marie-Jeanne, qui me semble tout à fait emblématique de l'époque, qui, quand elle se met à parler à la première personne, quand elle dit « je », quand elle a envie de faire quelque chose, elle, eh ben, il y a une phrase terrible. On dit même ses parents la traitent de putain. Tellement la révolution féministe n'était pas du tout passée. Il y a des portraits de femmes très beaux. Enfin, c'est très beau.
Il y a aussi des apparitions.
Il y a Aragon.
Il y a Aragon qui arrive. Et c'est un soir, il est rue Dauphine, à un bar, bien sûr. Il ne crachait pas sur l'alcool. Chani.
Il boit du panaché.
Et puis, il y a tout seul. Il y a là le vieil Aragon qui vient pour entrer dans le bar.
Ce qui est chouette, c'est de retrouver les mots de l'époque. Parce que quand tu racontes l'époque aujourd'hui, tu dis pas blue jean ou pullover, tu vois. C'est vraiment un truc.
Jean-Claude.
Ah, moi, je suis très embêté. Je suis très embêté parce que j'avais découvert les textes de Chani dans la revue Subjectif. Et je me disais, chouette, réédition et tout ça. Et là, vous écoutant, je me dis, je ne peux m'en prendre qu'à moi. J'y suis pas arrivé à rentrer dedans. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu à la queue de comète du surréalisme finissant, avec quelque chose qui n'allait pas. J'ai espéré que...
Ça, Guégan... c'est le roman, ça.
Oui, mais pas... j'ai espéré que Guégan m'éclaire à la fin.
Et non, je... où il fait une postface qui n'est
Guégan,
qui
peut...
mais très non, abusive. Voilà,
c'est ça que je veux dire. C'est que je suis évidemment retombé sur Guégan qui parle de lui-même, quoi. Donc, il m'a pas du tout éclairé sur Chani. Et je dois dire que je suis très embêté. J'ai absolument, comme toi, pensé au film de Godard, mais avec le côté décousu, mais aussi avec un autre côté, c'est que parfois ça passe plus la rampe du temps. Alors c'est peut-être la rampe de mon propre temps.
Fois, vous parlez de la première partie, c'est-à-dire le roman, pas une sécheresse à Paris.
Je suis en train de préciser que c'est peut-être la rampe de mon propre temps.
C'est une écriture.
D'accord.
C'est une écriture.
Oui.
Je suis désolé. Oui. Gisbert, c'est pas une écriture. Oui.
C'est le directeur de la NRF.
Tu penses bien que j'ai
entendu un message de la NRF.
Tu penses bien que j'ai entendu le ton doctoral avec lequel il me le disait.
Non.
Mais je pense que tu regretteras de ne pas être allé plus loin dans ce livre.
Je vous ai écouté, je me suis posé la question en vous écoutant, mais je tiens à être honnête avec moi-même.
Pourquoi tu t'adresses à Michel Trocu? Oui. Moi, je vous conseille avec Jean-Louis et Michel de lire Vessies et Lanternes. C'est donc.
Et moi, je compte pour du beurre.
Mais non, mais tu semblais un peu plus hésitante, c'est pour
mais
ça.
Mais non, mais toi, c'est non, la galette et le petit pot de beurre. C'est tout à fait autre chose.
Et c'est donc aux éditions, les deux en un seul volume, donc, et c'est aux éditions de L'Olivier, et c'est signé Alain Chani. Voilà, on a le temps tout à fait de faire des bons conseils. On va commencer avec Olivia de Lamberterie.
Eh bien, j'ai choisi un polar. Parce que j'ai remarqué que dans les listes de meilleures ventes, il n'y a que des polars. Donc j'ai choisi un polar qui n'est pas encore dans les listes de meilleures ventes, mais qui va le devenir. « Tout n'est pas perdu » de Wendy Walker chez Sonatine. Parce que l'idée est vraiment intéressante. C'est une jeune fille, ça commence très mal comme dans les polars, qui est violée lors d'une soirée. Et pour la soigner, on va lui faire un traitement un peu expérimental, mais qui est un traitement qui existe vraiment d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'on lui fait prendre un médicament qui lui supprime totalement la mémoire. Donc, elle ne se souvient pas qu'elle a été violée.
Ça, c'est un classique, ça,
des polars. Mais, évidemment, le corps, lui, se souvient, et donc, cette gamine va de plus en plus mal, jusqu'à faire une tentative de suicide, ce qui l'amène chez un psy. Et ce qui est formidable dans le livre, c'est que c'est le psy qui raconte l'histoire. Du coup, il va essayer de faire remonter les souvenirs à cette jeune fille. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il va voir tout le monde. Donc le psy raconte la vie des parents, la vie du père. Et comme c'est une toute petite ville où tous les jeunes étaient présents à la fête, y compris le fils du psychiatre, même le psychiatre va se demander si son fils n'est pas coupable. C'est diabolique. C'est vraiment très très bien fait. Bon, c'est écrit à l'américaine, un peu
envie,
à la va que je te pousse.
Envie de le lire.
Mais c'est d'une efficacité. Et j'avais jamais lu de.
Comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles?
Même les mauvais.
Appelle le diable Vauvert pour leur demander. Tout n'est pas perdu de Wendy Walker chez Sonatine.
Le conseil de Jean-Claude.
Eh bien, une réédition qui, là, de mon point de vue, tient le coup. C'est le très 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 beau court traité de délicatesse, de cet éloge de l'amitié à l'ancienne qu'avait écrit Frédéric Vitoux en 1986.
Ah, mais il a déjà été conseillé au masque plusieurs fois.
Ah, oui, ah bah, oui. Écoute, bah, je suis
d'accord avec toi.
D'en remettre une petite couche.
Le souvenir portrait de Roger Taillère, voilà, par Frédéric Vitoux, qu'il a écrit vraiment au moment
Roger
Taillère
meurt le 8 ou le 9 septembre 85 et Frédéric Vitoux écrit ça à la fin du mois de septembre.
Tout petit livre qui est apparu en 86 livre, et qui est réédité donc
aux Équateurs
longtemps après.
Il me semble que Roger est désormais en Italie.
Et même si on ne connaît pas Roger Taillère, grand critique de positif, même si on ne le connaît c'est là où je suis d'accord avec Jean-Claude et avec les autres, je trouve que c'est un éloge de l'amitié absolument magnifique.
C'est un traité de délicatesse aussi. Il y a quelque chose de très très beau là-dedans. Voilà. Et avec cette très belle phrase de Frédéric Vitoux, ils étaient devenus amis au fil du temps. Il écrivait « Un ami, c'est un démultiplicateur de bonheur. Et nous étions heureux ensemble.
Oui. » Voilà. On le reconseille donc encore une fois, le livre de Frédéric Vitoux sur son ami Roger Taillère. Mon conseil, même si Jean-Louis La Grande Boucle est refermé depuis quelques jours, je vous conseille « L'indémodable sur le Tour de France » d'Antoine Blondin.
Les meilleures choses
c'est finissent. À la table ronde, dans la petite Vermillon, chère au cœur de Michel. Ouais. Alors, on ne sait pas s'il en a suivi 27 ou 28. Il y a un débat historique.
Oui.
En tout cas, à mon avis, c'est au moins 28 éditions du Tour de France.
Oui.
Dans le sillage, écrivait Blondin, de postérieurs courts vêtus et relativement peu expressifs.
Oui.
Il n'y avait pas que les cyclistes, il y avait exalte, aussi les motards qu'il décrivait.
Il exalte dans ce livre une épreuve de surface.
Midi sur la croue, c'est l'heure où le motard de presse, debout sur les étriers, se soulage les adhérences.
Il exalte dans ce livre,
c'est
Jean-Louis, écoute-moi un peu, une épreuve de surface qui plonge des racines dans les grandes profondeurs. Il trouve même le moyen dans ce livre, qui était, je crois, un recueil de chroniques quand même de l'équipe, il réussit la poète d'en appeler la comtesse de Noailles. L'important n'est pas d'être sage, c'est d'aller au-devant des dieux.
Oui, ah voilà. Oui. Absolument.
Tout Blondin, dans, sur ouais, le Tour de France, et c'est dans la petite Vermillon. Jean-Louis.
Oui, eh bien moi, quand j'ai refermé la vie sexuelle des écrivains, je ressentais le besoin de me réconcilier avec Victor Hugo. Parce que Victor Hugo, il fait partie de la... Et puis, c'est pas le moins...
Oui,
c'est pas le moins... Comment on va dire, c'est pas le moins frénétique.
Victor Hugo, ouais.
Victor attention, Hugo, hein. Tata, fallait pas lui en promettre. Je veux dire. Oh, dis donc, rue de la, du Petit Muscle,
une sorte de qui est devenue
la rue
masculin,
du Petit Muscle, là, ce qui s'appelait à l'époque la rue de la pute qui muscle.
Mais vous avez une montée d'hormones.
Non, mais ça leur rappelle des souvenirs. Hein.
Et c'est le Muppet Show, tous les deux, là.
Quatre, à 80 balais.
La rue du Petit Muscle.
À 80 balais, quatre par jour. Il fallait lui apporter, tu sais, il fallait livrer.
Encore deux ballons, s'il vous plaît, pour nos deux amis.
Et donc, je ressentais le besoin de retrouver un peu de respect.
L'émission va se terminer. Hein.
Ah oui, un peu de respect pour Hugo.
Je voudrais donner un conseil.
De la réduit une sorte de DSK.
Mais Jean-Louis, l'émission se termine là.
Donc, je vous conseille, beaucoup plus sage, Un été avec Victor Hugo, de Laura Elmaki et Guillaume Gallienne.
Qui est le recueil des chroniques données le matin,
c'est pas
ici
original,
sur France Inter.
Mais en même temps, c'est un bon conseil parce que l'ouvrage est absolument délicieux.
Absolument. Et puis comme ça apparaît aux éditions Radio France, c'est forcément une très bonne idée.
France Inter. Oui. J'avais même pas vu. Non, vite. Et les éditions des Équateurs,
c'est un collection mariage.
Très rapidement, je remets une couche sur Olivier Molin. Olivier Molin lisait le livre le plus drôle de l'année, La fête est finie, chez De Noël. Je l'ai dit l'autre jour, mais là je le redis, une couche. Et, parce que vraiment, là je me suis dit, il faut que je vous donne un bon conseil de lecture d'été.
Michel, l'émission se termine là.
Oui, alors Edouard von Kaiserling, Escalier 3, aux éditions Jacqueline Chambon. C'est un Bildungs roman, un roman d'apprentissage.
Un
Bildungs roman, parce que ça se passe, c'est traduit de l'allemand, et c'est un jeune provincial qui arrive à Vienne en 1900.
Le roman de formation.
Voilà, c'est vraiment le roman de formation par excellence. Voilà. Merci Jean-Louis.
Voilà. Il faut que je leur traduise.
Et voilà, on fait équipe. Edouard von Kaiserling, Escalier 3. Aux éditions, je ne sais pas si quelqu'un écoute encore.
Non, c'est...
L'émission est finie depuis 5 minutes, à mon avis.
C'est vraiment la bouteille. Tous ces conseils, même ceux de Michel Crépu, vous les retrouvez sur le site du Mosque et la Plume, franceinter.fr. Merci Olivia de Lamberterie, Jean-Claude Raspienjas, Michel Crépu, Jean-Louis Hésine, pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir au Charles Trenet à La Technique. Et je les remercie Philippe Mercher, Jean-Benoît Tétu et Bastien Varigaud. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien c'est le jeudi 18 août. Je vous attends. Nombreux forcément à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma, l'autre au livre. On parlera des films de l'été dans une semaine. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.